Tu me donnes l'adresse?
Alors, l'adresse du podcast, c'est...
Tu me l'écris?
Oui, ben oui, parce que c'est vrai qu'on peut parler en plus avec notre ami, comment il s'appelle, Skype. Alors, le podcast Apple 2, ben, je crois que c'est openapple.net, je vérifie. Ce sont des Américains qui tiennent ça,
Oui.
qui s'appellent Ken Gagne et aussi Mike Maginis. Et qui sont bah, des utilisateurs Apple comme il en existe encore quelques-uns.
Ce que tu as reçu à Paris, non?
Non, celui que j'ai reçu à Paris, c'est un autre utilisateur.
Australien, je
Et,
pense.
voilà, exactement. Lui est australien. Il s'appelle. Comment il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est ma femme qui est derrière.
Attends, j'ai oublié.
Alex Lee.
Alex Lee, qui habite en Angleterre depuis un certain temps et qui est venu à Paris
Olé.
avec. Oui. Tu m'entends plus du tout? Ah, c'est figé. Voilà.
Moi, je t'entends, ça
Très,
va?
très bien, moi aussi. Là, c'est bon, là. Est-ce que c'est une de tes réalisations qui est derrière moi, derrière toi, je veux dire?
Non, non, moi, je fais exprès de ne pas faire de pub, mais c'est un endroit qu'on aime bien dans le village. Il s'appelle le Café du Port.
D'accord. Attends, je ferme ça. Je vais aller m'installer en bas parce qu'en bas, j'aurai plus de bandes passantes. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça te fera visiter ma maison en même temps. Zoup. Alors, je descends avec ça.
Ah oui, mais
Oui?
j'aurais pu prendre mon iPad et me promener aussi.
Alors, zoup. Voilà, j'y arrive. C'est plus simple parce qu'en fait ma box internet est en bas et là je vais avoir du réseau à mon avis en veux-tu en voilà comme on dit. Alors je branche ça, c'est quoi ça ici, parce que le but du jeu c'est quand même de m'isoler un petit peu, de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir de chat, c'est-à-dire de bruits extérieurs qui peuvent perturber quand même l'échange qu'il y aura pendant le podcast. Alors, en fait, c'est dans ma maison au Chesnay. On y habite avec ma femme et nos trois enfants depuis octobre 2010. J'ai la chance d'avoir ma pièce à moi,
Ah oui, j'imagine.
qui est ma pièce Apple 2. Donc, en fait, il y a quand même pas mal. Je vais essayer de me pousser et de te montrer. Il y a quelques Apple 2GS qui sont ici.
Oui, je vois.
Qui appartiennent à quoi, qui appartenaient et
À Madeleine.
non, alors justement, c'est une Madeleine, il est ici. Voilà, c'est une Madeleine, il est ici et qui appartenait au GS Club, qui était le groupe
Oui.
d'utilisateurs Apple 2 GS. Et de l'autre côté, moi bon, j'ai des armoires remplies de disquettes, de livres, de choses comme ça. Et hier ou avant-hier, plutôt avant-hier. Je me suis fait un petit tas de certains bouquins. Hop!
Voilà, bah oui, c'est le musée alors.
Oui, c'est le musée.
Bon, tiens, je vois celui-là si tu veux.
Ben celui-là, je l'ai. Alors justement, je regardais parce que j'ai quelques amis collectionneurs, parce que je les ai mis. La clé pour Apple 2GS, première et seconde édition, ou l'assembleur de l'Apple 2, je savais pas. Oui.
Il y a eu 4 éditions celui-là.
Ah oui, à ce point-là.
C'est François qui m'a dit ça sur le forum.
Ah oui, mais 14, ah oui, en reprint d'une édition. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est grâce à François, que je connais bien et qui est sur les photos et qui a participé avec nous lorsqu'Alex Lee est venu, il est un très grand collectionneur Apple. C'est-à-dire qu'il collectionne aussi bien. C'est un passionné. C'est un marin de marine marchande. Et quand il est sur Terre, il achète à tour de bras de l'Apple 2, de l'Apple 2, de l'Apple 2, du Mac aussi. Il habite à
Son nom de famille, c'est comment?
Michaud, Michaud.
Il nous connaissait dans les années 85 ou...
Alors, je crois que tout le monde connaissait de nom Nicole Bréau-Poulikène, célèbre pour tous ses
Bien
bouquins,
sûr.
Parce que, comme d'autres l'ont dit, c'était les livres de chevet de tout le monde, en fait. Parce
Oui,
que.
ça permettait de bien dormir.
Ça permettait également de découvrir l'Apple II. Et c'est vrai qu'on a tous eu des bouquins de Nicole Bréau-Poulikène, tous ces bouquins-là de PSI. Et c'était quand même assez extraordinaire, quoi. Et de voir que chacun, mais vraiment tout le monde a ces bouquins-là, quoi. C'est quand même assez marrant.
Voilà. Alors, moi, il me reste quelques tas dans un garde-meuble,
Oui.
si jamais il y a besoin.
Ah, mais c'est gentil, merci. Et
Enfin,
t'es...
je ne suis pas sûre, hein, parce que j'ai pas mal déménagé dans ma vie.
Oui.
Et à chaque fois que je déménageais, j'en éliminais un certain nombre.
Ah, d'accord. Ça, je comprends. Attends, je viens de lancer un truc, il m'a réduit la petite fenêtre. Voilà. Ah oui, je ne maîtrise pas du tout là, cette nouvelle version de Skype, et c'est très bien de vérifier avant. Et alors, il y a une chose. Attends, je cherche. J'arrive. Je suis un peu. Un peu dépassé par ces trucs-là, parce que j'ai changé de boulot récemment, il y a 5 mois, et je bosse comme un cochon, sauf aujourd'hui où j'ai décidé de rentrer tôt. Alors, attends, je vais reprendre ce que j'avais marqué ici.
Madeleine m'a expliqué que tu avais un job très important pour faire l'interface avec les utilisateurs, des produits
Alors,
particuliers.
en fait, je bosse dans l'informatique, si on peut dire ça. Je suis responsable informatique d'une boîte, c'est-à-dire que je m'occupe en fait je travaille au siège de Valeo, et
Ah,
Valeo,
Valéo.
oui, l'équipementier automobile. Et le but de mon boulot, c'est que les utilisateurs puissent bosser dans les meilleures conditions et leur fournir les outils qui vont bien, par exemple des téléphones portables qui permettent d'appeler ou de recevoir des appels dans le monde entier lorsqu'ils voyagent, et ce genre de boulot. Et en fait, je faisais ça avant chez Nexans. Nexans, c'est l'ex-Alcatel Cable.
Oui.
Et en passant chez Valeo, j'ai pris un petit peu plus d'envergure et j'encadre maintenant mes équivalents sur les sites de région parisienne de Valeo, et ça représente beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de boulot. Et je suis tout seul pour faire ça. Ce qui fait que je travaille un peu beaucoup de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir.
Et puis tu dois être en veille continue pour avoir les nouveaux
Oui.
outils les plus performants.
Exactement, c'est tout à fait ça. Ce qui est bien, c'est que pour ça, pour les outils, et c'est Valeo qui est comme ça, c'est une boîte industrielle, et les boîtes industrielles veulent utiliser des standards et les promouvoir et imposer aux autres, c'est-à-dire imposer à toutes les entités, à toutes les filiales de la boîte. Donc pour ça, c'est bien, il y a des gens qui recherchent les standards. Moi, comme je suis au siège, le but d'un siège, c'est de montrer la voie normalement, mais c'est aussi de dire que les outils standards ne sont pas ceux qui sont les bons. Donc j'ai beaucoup d'exceptions à gérer.
Ah là 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 là. Oui, d'accord.
Ça, c'est plus compliqué. Mais c'est très amusant à faire. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un boulot de représentation aussi. Et comme j'aime bien me donner en spectacle et rendre service aux gens, je trouve que ça va plutôt pas mal avec ça.
Bon, enfin, en tout cas, ton forum est très bien fait. Je vois que tu as énoncé tout ce qu'il fallait énoncer sur toutes tes machines. Je vois que tu arrives
C'est gentil,
à
merci.
recruter des nouveaux membres. Et
Oui,
donc,
il y en a. Ah oui, bah et des célèbres en plus.
bon, mais ça c'est grâce à Madeleine, hein. Mais elle veut pas y aller dans ton forum.
Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie d'y aller. Ouais. C'est ça que j'ai
Elle a des
compris.
problèmes de. Elle panique un peu sur Internet. Elle
Oui.
vide son cache toutes les secondes. Enfin bon.
Ah d'accord. Et tu es souvent en relation avec elle?
Non, on se téléphone.
Oui.
On s'est téléphoné 3 fois là depuis Pâques.
D'accord.
Et on se raconte des trucs d'avant.
Oui.
Alors elle m'a dit un truc très drôle, c'est que la première fois qu'elle a entendu parler d'Internet,
Oui.
c'est de ma bouche.
Ah bon?
Donc voilà, je l'ai peut-être fait donner des préjugés déjà, mais.
Ça, c'est amusant.
Bon, moi, j'ai commencé réellement Internet en 93.
Ah, pas avant.
C'est-à-dire que j'ai été recrutée à Rouen pour former le personnel de l'université de Rouen
Oui.
à Internet.
Mmh.
un site pour la fête des sciences, des choses comme
ça. D'accord.
Mais c'est vrai que avant on utilisait tellement dans les années 80-90 Calvados qu'on savait ce que oui. c'était que travailler en chez soi déjà.
Oui.
Et chatter. Et grâce à Calvados et à je ne sais plus comment ça s'appelait, on a beaucoup avancé.
Le premier, il y avait bon Calvados, Calvacom, et il y avait après. Calvacom, ouais. Ouais, c'est ça, c'était l'autre Calvacom. Ouais. Alors moi, est-ce que je peux te poser quelques questions que m'ont demandé de te poser mes camarades du forum, s'il te
vas-y,
plaît.
Vas-y. Ils prennent des notes.
Non. Là, je les ai sous les yeux en plus. Il y en a qui me disent qu'il y avait l'embarras du choix en micro-informatique à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80. Et quelles sont les raisons particulières pour avoir choisi le monde Apple ?
Alors, moi, dans les années 70 à 78,
oui.
j'étais professeur visiteur au Brésil.
Mmh.
J'enseignais donc dans une école d'ingénieurs, dans une université, l'électronique, les systèmes logiques et l'informatique aussi. Et vers 77, 78, je ne sais plus maintenant, j'ai tombé sur des journaux ou des bouquins, je ne sais pas, qui parlaient de l'Apple II.
Oui.
Et qui parlaient de la possibilité d'avoir un ordinateur personnel qu'on pouvait connecter sur sa télévision et qui parlait du garage des deux grands inventeurs. Des deux Steve,
oui.
Et donc, en 79, je suis rentrée à Paris et je me suis préoccupée d'acheter donc, toutes les revues de micro-informatique personnelle.
Mmh.
Et je suis tombée sur une association qui était gérée par Laurent de Villemorin qui s'appelait EDIP.
Oui.
À côté des Halles, et qui organisait une conférence à un endroit de Paris, là, près des Halles.
D'accord.
Donc, je me suis présentée, je suis allée à la conférence. Je suis tombée sur un parterre de messieurs.
Oui.
j'ai été accueillie par un parterre de messieurs, et j'ai fait une réflexion en disant, j'espère que vous accueillez quand même les dames. Et Monsieur de Villemorin se souvient très bien de cette incartade parce que j'étais pas très contente de voir que c'était un milieu un peu fermé.
D'accord.
Et nous avons sympathisé avec Laurent de Villemorin et donc il m'a accueilli dans son association qui n'avait que des Apple.
D'accord.
Et un TRS-80 qui traînait dans un coin.
Oui, pas souvent allumé.
Voilà. Donc grâce à cette association. Venaient donc des gens du monde libéral, par exemple un pharmacien ou ouais. un comptable ou un médecin qui avait ouais. besoin d'utiliser Apple II pour faire un peu de gestion et qui avait compris qu'on pouvait faire plein de choses avec VisiCalc.
D'accord.
Et aussi programmer. Parce que c'était ça l'idée en fait de Villemorin, c'était montrer que. Un appareil qui non seulement a des logiciels tout faits, mais aussi un accès facile pour apprendre la programmation.
D'accord.
Et il connaissait très bien Jean-Luc Verroy, le directeur à l'époque de la maison d'édition PSI.
Ah.
Et donc nous sommes mis en contact et tout de suite PSI a demandé à ce que j'écrive. Le premier, c'était sur l'Apple Soft, enfin les coulisses de l'Apple Soft.
Oui.
Il y en a eu un juste avant qui a été écrit par un ami aussi qui travaille, enfin qui venait à l'association qui s'appelait Lévy, je ne sais plus son prénom.
Jean-Daniel ou Daniel Jean, non ?
Non, ça c'était, c'était celui avec lequel j'ai travaillé sur l'assembleur.
Oui.
Mais Dominique Schrein, voilà, c'est ça.
D'accord.
Qui avait sorti un petit bouquin sur l'Apple Soft et moi le mien il est venu après. Beaucoup plus détaillé, un peu technique.
Oui.
J'ai relu là ces jours-ci parce que je me suis remise sur l'Apple IIc.
Oui.
Et petit à petit, donc, les éditions PSI m'ont motivé pour continuer, parce que, comme dans tout le monde d'édition, il faut absolument en publier beaucoup pour être connu.
D'accord.
Et pour être bien vendu.
Oui.
Donc, si tu veux, j'étais déjà très intéressée par l'informatique personnelle, parce que j'avais mes études et par mes cours.
Oui.
Pris que c'était vraiment le truc, et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dépêchée d'avoir des informations là-dessus et d'acheter vite mon Apple 2 et sur ma télé, etc.
Je comprends maintenant.
Et les autres machines, je savais qu'elles existaient, mais je les avais tout à fait méprisées.
Et alors, quelles étaient tes références, tes sources? Parce que, est-ce qu'il y avait de la documentation, à part la documentation d'Apple, ou c'était des recherches approfondies pendant des heures, de jour, écoute, le jour et la nuit?
Je me souviens avoir acheté, mais je ne sais plus où, les magazines américains qui étaient publiés à Seattle, c'est pas Call Apple.
Oui.
Mais je ne sais pas comment je les avais eus. Est-ce que j'étais voyager aux États-Unis et que je les ai achetés là-bas, je ne me rappelle plus.
D'accord.
Mais c'est évident que j'ai travaillé sur des documents américains et des magazines américains.
Oui.
Plus évidemment, la documentation officielle, qui était quand même très, très dense, hein,
de
manuel d'utilisateur, de description de la machine, il y avait de quoi faire. Hein,
oui.
De technique AppleSoft, enfin, on avait quand même, de chez Apple, beaucoup de documents, pas forcément lisibles, mais ils existaient.
Et est-ce que tu sais quel a été tes plus gros succès et ceux qui se sont vendus le moins, justement?
Ben écoute, j'ai pas ça chez moi là en ce moment, mais enfin on pourrait rechercher. ce que j'ai surtout, c'est des souvenirs de gens qui avaient aimé un de mes livres et qui m'avait renvoyé des commentaires très très intéressants pour m'expliquer que grâce à moi, ils avaient compris plein de choses.
C'est sympa, ça.
Ce souvenir-là, je l'ai surtout sur un livre un peu particulier parce que je me suis lancée dans l'intelligence artificielle et j'ai commis le Lisp sur Apple.
Oui.
Et c'était ce livre-là que quelqu'un m'avait complètement décrypté et encouragé de continuer, etc. Enfin, voilà. Mais je ne peux pas te dire là aujourd'hui parce que je n'ai pas les documents, mais on peut trouver ça.
Ah, c'est gentil. Et est-ce que tu te rappelles, parce que c'est François qui me demandait, les titres en italien, parce que tu l'as dit que tu avais eu deux titres en italien.
Oui, c'est lesquels, c'était? Pareil, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où je l'ai rangé. En tout cas, la couverture était extraordinairement jolie. Hein. C'était une jolie pomme très, très bien faite.
Oui.
Il suffirait je pense que c'est en italien, la pratica dell'Apple, ça devrait être pas.
Hein. Oui, on arrive à reconnaître. Et alors, quand tu écrivais tes livres là, pour PSI, il y avait tes relations avec Apple France, c'était, j'imagine, excellente, non? Tu devais être soutenu.
Oui. Jean-Louis Gasset, oui.
Oui.
Et Daniel Blériot, je crois. Mm-hmm. Et au fil des années, ils m'ont donné, par exemple, à faire la traduction d'un des manuels utilisateurs de l'Apple II.
Ah oui.
Et donc, j'ai fait cette traduction à une vitesse record, et ça a été un calvaire, mais je l'ai fini. Et quand je l'ai apporté à Jean-Louis Gasset ce jour-là, il m'a remis un Apple II en cadeau.
Ah, c'est sympa!
Donc, je suis revenue avec un Apple II très contente, bien que j'ai passé énormément d'heures à traduire 300 pages. Comment on appelle ça, des échanges solidaires, quoi. C'était pas payé.
Non, mais c'est ça, j'ai bien compris. Il faut compter le nombre d'heures fois le taux horaire et regarder si ça valait le prix de l'Apple.
Mais c'était l'Apple 2C venait de sortir, tout ça. Enfin, il y avait tout un. Je sais plus si c'est l'Apple 2C ou l'Apple 2GS. Non, je pense que c'est le 2C.
Je pense que Gasset a dû s'occuper du 2C parce que le 2GS, il n'a pas spécialement promu. Ouais.
Et alors, promu après, il y avait toute la querelle de la disparition de la commercialisation de la PGS.
Oui.
Et je suis donc revenu chez Apple à cette époque-là, mais je ne sais plus dans quelles conditions. Et de nouveau, je suis rentré à la maison avec un cadeau. C'était un Mac 2.
Ah oui.
Avec toutes les possibilités de mettre...
D'extension. C'était le premier Mac dans lequel on pouvait mettre des cartes d'extension, oui.
Alors, la consigne, c'était maintenant, on ne parle plus de GS, vous faites vos bouquins sur le Mac 2.
Ah oui.
Et là, j'ai calé.
Oui, mais ça t'a fait basculer dans le monde du Mac.
Et j'ai complètement calé, parce que la robe du Mac, c'était vraiment l'enfer.
Oui.
Et voilà. Mais je pense que dans les mêmes années, j'allais donc aux réunions du lundi soir, enfin, quand je dis lundi, c'était le soir, de Hypercom.
Oui.
Dont d'ailleurs, il faut reconnaître, j'ai inventé le nom.
Oui, mais tu es membre fondatrice du, voilà. d'Hypercom. Ouais.
Voilà. Et donc, on se réunissait toutes les semaines, je crois, et on présentait des nouveaux logiciels. Il y avait celui qui a fait le tarot, il y avait celui qui a fait Force.
Oui.
Il y avait des gens très, très compétents. Il y avait probablement aussi toute la famille de... Comment on peut appeler ça des...
Des maniaques, des Apple de maniaques.
On ne va pas dire des pirates, c'est pas gentil, mais...
Ah, mais il pouvait y en avoir.
Oui.
Il pouvait y en avoir, ouais.
Je ne sais pas comment tu les appelles, toi.
Bah, des pirates, ouais. Il ne faut pas avoir peur des mots, hein. C'était des pirates. Il y en avait déjà, oui. Je pense que ça devait s'échanger aussi des disquettes comme ça le faisait du temps de l'Apple II et qui continuait pour certains. Hein.
Voilà. Ah. Et donc, on était révoltés de voir Apple abandonner le 2GS. Donc, oui. Ça nous faisait un point de discussion qui était un petit peu, malheureusement, un peu... On perdait un peu le fil de la programmation. Et alors après, en fait, oui, c'est ça. En 90... 91 peut-être. J'ai été contactée par Apple Cidrine.
Oui.
C'était donc la boîte qui avait toute la documentation sur toutes les machines Apple.
Oui.
Et qui avait été donc installée par Apple pour pouvoir mettre à la disposition des développeurs toutes ces docs.
D'accord.
Et moi, j'étais correspondante d'Apple 2GS au téléphone.
Au téléphone, donc les développeurs et autres pouvaient t'appeler, ou utilisateurs.
Voilà, enfin surtout les développeurs qui avaient besoin d'un doc et qui ne savaient pas trop laquelle choisir et qui ne comprenaient pas comment ça marchait. Etc.
D'accord.
Donc ça a été aussi un travail, un télétravail.
Et c'est-à-dire, c'est la doc qui existait à l'époque de Apple 2GS au début, c'était quoi? C'était la doc Cortland avec les 6 volumes blancs, je ne sais pas si tu t'en rappelles.
L'horreur.
Oui. Exactement. Donc c'est... Exactement.
Et alors, Apple Cédrine, la boîte de Versailles, là, se contentait de faire des photocopies. Ils n'avaient aucune notion technique.
D'accord.
C'est pour ça qu'il fallait des correspondants.
Ah oui, ils étaient nuls pour ça, alors.
Ils faisaient que la photocopie, en fait.
Ah oui, moi je pensais que les documentations, moi j'ai quelques volumes, quelques exemplaires provenaient de chez Apple, USA, et après était distribué aux développeurs enregistrés chez Apple.
Oui, ça passait en tout cas par Cédrine, et moi j'avais des coups de fil. Puis j'étais là pour expliquer ce qu'il y avait dans la doc. Enfin bon, je n'ai pas de souvenir précis, mais bon, oui. C'était une manière en tout cas pour moi d'avoir de la doc.
Oui.
Mais comme je n'étais plus dans le circuit de PSI, puisque PSI ne voulait plus entendre parler de ça, puisque Apple ne voulait plus entendre parler de vente de GS.
Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Les relations étaient inexistantes, alors j'imagine.
Voilà.
Et est-ce que il y a une question que François Michaud, pardon, j'aurais pu la poser tout à l'heure au sujet de tes livres en italien. Il faisait la remarque qu'il y avait quand même beaucoup Il y avait, en tout cas, de notre, ce que l'on ressentait, c'est qu'en Allemagne, il y avait quand même beaucoup plus de demandes sur l'Apple II qu'en Italie. Et alors, pourquoi y a-t-il eu le choix, si tu sais, de versions italiennes et non pas allemandes?
Aucune idée.
Aucune idée.
Je pense que PSI avait des contacts en Italie par l'Allemagne.
D'accord. Et...
Moi, je suis pour rien.
Oui. Non, c'est pas toi qui as fait la traduction en italien, alors.
Pas du tout. J'ai beaucoup apprécié le format, le design.
Oui.
Par rapport à ce que c'est, c'était largement mieux.
Mais si tu es capable de nous retrouver la maison d'édition, tout ça, on est preneur. Hein. On a à peu près le titre maintenant, mais.
Écoute, comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup déménagé.
Oui.
Et je ne sais plus exactement où mais c'est probablement là où j'ai dans un garde-meuble à Nantes, toutes mes machines aussi.
D'accord.
Alors, sinon j'ai un autre dossier qui est très important, c'est que j'ai travaillé pour 01 Informatique.
Oui.
Puisque c'était PSI aussi, c'était le même groupe.
D'accord.
On m'envoyait les articles que les lecteurs voulaient, les auteurs potentiels voulaient faire publier.
D'accord.
Et donc, j'ai reçu plein de propositions pour publier des listings et des listings de programmes faits par des Apple II. Et il fallait que je donne mon avis, que je dise si c'était publiable, si c'était nouveau, si
Ah bien.
Donc il y en a plusieurs qui sont passés comme ça, et donc j'ai gardé tous les dossiers.
C'est génial.
Ça, mais je ne sais plus trop. Hein. Il faudrait que je replonge là-dedans s'il y en avait beaucoup ou pas, s'il y avait des gens célèbres, je ne sais plus.
Ah ça. Non, on connaît la plus célèbre.
Mais ils ont envoyé des disquettes. Quand même.
Ça c'est marrant, ouais. Et justement, à propos de disquettes et de logiciels, toi, on te connaît pour tes écrits, mais est-ce que tu as écrit un livre? Est-ce que tu as participé à des logiciels ou écrit des logiciels?
Non, j'ai Madeleine Odé qui me dit toujours que sans moi, elle n'aurait pas écrit Gribouille. Tu sais qu'elle elle se remet à refaire son programme parce que son algorithme de césure, elle l'a perdu.
Oui, oui.
Elle va tout réécrire.
Non, mais c'est génial. Moi, j'aime beaucoup Madeleine. C'est un petit bout de femme super dynamique, curieuse de tout. Elle est géniale, moi, je trouve. Je suis toujours content de la voir et de discuter avec elle. Toujours plein d'anecdotes. C'est vraiment très, très amusant. Et c'est pareil, un peu l'histoire de la micro que nous, on voit de l'extérieur plus en tant qu'utilisateur. Vous avez la chance de voir du côté, d'autre côté, en fait. Et du côté de l'ombre pour nous. Et c'est ça qui est très enrichissant, c'est de voir comment ça se passait.
Je suis en train de me souvenir d'un truc où j'ai participé à la programmation réellement. Il faut que j'arrive à retrouver l'entreprise. Là, j'ai un vide. Mais il m'avait fait faire une partie du programme.
Oui.
J'ai un trou là, je ne sais plus. Je sais que c'était dans le quartier de la Bastille.
Oui.
C'était dans les années 90-91. J'ai un trou.
Non, ce n'est pas grave.
Mais sinon, il y a une époque où je voyais beaucoup Paul Lafontaine.
Oui.
Et je ne sais plus dans quel contexte, mais j'ai on se voyait souvent, on discutait justement de la mort de la page de GM. Mais tout un tas de trucs qu'il faisait, tu sais, les lunettes 3D,
oui.
Tas de machins, il était très intéressant.
Paul est l'autre personne que je vois régulièrement.
Écoute, j'ai d'enlever une nouvelle.
Oui, je lui dirai, je l'appellerai tout à l'heure après mon podcast, ce n'est pas trop tard. Je trouve assez fabuleux parce qu'il a toujours des anecdotes. Il faisait partie aussi avec François Michaud de notre petite sortie avec Alex Lee et de notre rencontre avec Alex Lee. Et tout pareil, un peu comme Madeleine et comme toi, curieux, toujours des choses à raconter et très créatif. C'est ça, quand tu parles du net 3D ou autre, lui servait de ces machines pour aller créer des choses, pour bosser pour les centrales nucléaires et autres trucs. Il y a quand même des mots arrivés, des choses extraordinaires qu'on arrive à faire avec l'Apple II, quoi.
Il a quel âge maintenant?
72 ou 73 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Ah, bah d'accord, ça va pas.
Ouais, c'est ça. Et il est...
On va tenir encore quelques années, c'est bien.
Oui. Non, là où vous deviez vous voir, c'était à des réunions de Club Apple, probablement.
Oui.
Je pense, oui.
Bon, tu sais que j'ai un problème concret à te poser, là.
Oui.
Mon Apple 2C que j'ai retrouvé, enfin, qui n'est pas à moi, mais qui marche,
et c'est fait
un check this drive.
Ce qui est normal. Parce que j'ai vu ton message, et c'est tout à fait normal. Il faut lui mettre une disquette à l'intérieur.
Mais j'ai essayé toutes les disquettes.
Ah, zut. Zut.
Donc, je suppose que si toutes les disquettes font le même truc, c'est que c'est le lecteur qui t'en cause.
En général, c'est le cas. Avec une disquette, je t'aurais dit, c'est la disquette qui s'est démagnétisée. Et avec toutes les disquettes, je pense que c'est le lecteur qui est probablement, la tête de lecture est probablement sale.
Ou alors, si quelqu'un pouvait m'envoyer un lecteur externe, je
serais content. Alors... Alors oui, mais est-ce que ça boot sur un lecteur externe? Je ne crois pas.
Ah bon?
Je me renseigne, sinon je t'en envoie un. Parce que je crois que j'en ai un.
On ne fait pas PR7 ou...
Non, mais très bonne question. Je ne suis pas un grand spécialiste de Apple 2C, même si j'en ai un qui traîne quelque part. Moi, je suis plus Apple 2GS. Mais
Tu peux peut-être essayer, tu vois, si ça boot.
Ben, je vais essayer de retrouver l'endroit où j'ai garé mon Apple 2C. Mais je pense que je vais demander surtout à ceux qui en ont un, parce que je pense que ça prendra moins de temps.
Mais ton diagnostic, c'était quoi? Que la tête de lecture était poussiérée?
Pour moi, c'est la tête de lecture qui est sale. Soit
c'est lourd, alors.
Soit tes disquettes ont pendant longtemps été...
Non, mais c'est pas possible, parce que j'en ai une vingtaine.
D'accord. Alors, c'est la tête. Alors, si c'est la tête de lecture, il faut démonter l'Apple. Il doit y avoir, je peux essayer de demander à mes petits camarades s'il n'y a pas des tutoriels qui expliquent comment on démonte l'Apple 2C et comment on nettoie la tête. Mais avant toute chose, avant de faire du démontage ou autre, je vais leur demander si on peut, en branchant un lecteur externe, faire booter l'Apple 2C dessus.
Ouais, d'accord.
Hein,
bon, ben, je te remercie.
Je t'en prie. Mais alors, qu'est-ce qui nous vaut, après tant d'années d'absence, de revenir sur le monde Apple? C'est Madeleine qui t'a motivé?
Ben, écoute, on s'était appelé il y a 2 ans.
Oui.
Elle avait trouvé mon téléphone.
Oui.
Et puis, elle m'a rappelé, donc, 2 ans plus tard. C'est-à-dire à Pâques.
D'accord.
Un peu avant Pâques, cette année. Voilà. Et elle m'a beaucoup parlé de toi. Et donc, voilà, petit à petit.
La curiosité l'emportant.
La curiosité l'emporte. J'ai été ressortir tous mes bouquins. Je lui ai envoyé un pratique de l'Apple 2 version brune.
Oui.
Elle était complètement ravie. Et avec une dédicace, bien sûr.
C'est sympa. Ça, c'est sympa.
Et donc là, on est en contact. Je suis de l'avoir à Paris dès que je ferai l'occasion. Et voilà. Et puis, je vais la soutenir pour qu'elle finisse mon algorithme de ses yeux, parce que c'est trop beau, quoi.
Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Le premier soft qui permettait de faire la césure de manière intelligente sur les mots en français. C'est quand même assez génial.
C'était surtout le premier soft de traitement de texte en français.
C'est vrai? Oui. Oui, oui.
Elle me disait à l'époque que les secrétaires travaillaient encore dans les bureaux avec une machine à boules IBM.
Ah oui, à ce point-là. Ouais, ah, oui, ça a dû leur changer la vie.
Donc, non, mais je t'assure, hein, je pense que c'était le premier en français.
Ouais, oui.
Parce qu'à l'époque, c'était quoi? Les logiciels, c'était Apple...
Writer, non? Je suis en train de regarder, parce que je
l'ai... Apple Works ou Apple Writer?
Ah, même pas, je pense. Quoique, il y avait peut-être Apple... je sais pas si Apple Works était déjà sorti, s'il datait de 83-84. N'en occupe pas, parce que là, j'ai les premières disquettes de Gribouille. Hop. Mais la première version Apple Works n'était pas en français. Mais voilà, en fait, c'était une version, de toute façon, francisée d'un logiciel anglais qui ne coupait pas les mots.
Oui.
Selon les règles grammaticales françaises. Ouais, parce que là, j'ai des vers.
Je sais pas, c'est elle qui a fait le dictionnaire. Je sais pas comment elle a géré ça.
Bah, c'est l'objet de son de son algorithme. C'est elle nous le réexpliquera quand elle aura fini.
Bon, enfin, moi, je suis impatiente de d'avoir
bah, oui.
mon disque qui marche.
Ne t'inquiète pas. Et alors, attends, je vais te montrer des choses. Je cherche deux trucs, trois trucs. Il y en a peut-être un que tu as connu. Alors, j'ai pas le retour image là. Alors, je sais pas si tu vas voir. Est-ce que tu vois.
Donc, oui, oui, Jean-Louis Le Breton, tout à fait. Ah, bah oui, je le connaissais, Jean-Louis Le Breton.
Je m'en doutais.
Mais oui, il me montrait ses jeux. J'allais chez lui et il me montrait ses jeux de. Ses jeux, de petits jeux de
d'aventure.
D'aventure, oui,
oui. Oui, c'est ça. C'est Jean-Louis Le Breton qui.
Et alors, c'est récent, ça?
Alors non, Le Gang des Puces est un livre édition Hebdogiciel qui date du milieu des années 80, juin 85. C'est daté, je vérifie sur l'édition. Hop. Et en fait, il continue d'écrire.
Ah oui.
Là, tu le vois, Pruneau l'Armagnac de l'héroïne Fafouine Babouin. Et en fait, Jean-Louis Le Breton habite dans le Gers maintenant. Et il habite à 15 km, même pas 10 km de chez mes parents.
Ah, ben alors, tu le vois souvent alors.
Donc je le vois, bon, quand je vois mes parents, oui, je pars un jour ou deux et je vais chez Jean-Louis. Et qui est génial, ouais, que j'aime beaucoup.
Et on a conservé toutes ces productions de jeux d'aventure là.
Oui, 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 oui. Il y en a quelques-uns, dont moi qui collectionne ces jeux d'aventure, et il a remis à jour son site jeanlouislebreton.com avec des photos et autres trucs de son site.
D'accord.
Et alors ça, que tu n'as peut-être jamais vu, parce que je pense que de toute façon personne ne l'a acheté.
Si, je l'ai moi.
Ah, tu l'as, ben voilà, nous sommes deux.
Les polyèdres.
Oui, le livre des polyèdres de Roger Le Man ou Le Mas, je ne sais pas comment on prononce, mais je pense que c'est Le Man, qui est un livre écrit avec... Est-ce que tu sais?
Non.
Avec Gribouille.
Ben voilà, c'est pour ça qu'il va avec.
Et voilà, c'est un livre écrit grâce au logiciel de Madeleine.
D'accord, et grâce à moi donc.
Et grâce à toi en fait, c'est ça, exactement, oui.
Non, mais très intéressant son livre, je me souviens, il y a des très belles figures. Oui, j'ai dû l'acheter en le voyant d'ailleurs, le monsieur. Peut-être qu'il me l'a même dédicacé, mais je ne sais plus où je l'ai rangé.
Voilà, bah, voilà, quand on parlait de jolies choses.
D'accord, très bien.
Et alors, quand tu as arrêté après l'Apple, le Mac et les machins, parce que j'imagine que tu en vivais.
Les livres, oui.
Oui. Tu es redevenue consultante et professeur comme tu l'étais?
Non, j'ai travaillé pour un concessionnaire Apple. J'ai travaillé à la Compiègne.
Oui.
Et à deux informatiques. Donc j'étais chargée de la formation.
D'accord.
Donc j'avais une batterie d'Apple, de Mac SE, je pense.
Oui.
Et soit les gens venaient dans le magasin, il y avait une salle de formation.
Mm-hmm.
Soit je me baladais dans la voiture avec une demi-douzaine de Mac 2, de Mac SE, pour aller former des gens dans les hôpitaux de la région Picardie.
Ah, d'accord.
Hôpitaux, mairies, permanents, enfin, différents organismes qui négociaient avec de l'informatique et avec des conventions de formation, le fameux 1%.
D'accord.
Puis beaucoup de contacts aussi, mais pas des formations vraiment, avec les gens de l'université de Compiègne, l'UTC.
Oui, l'UTC de Compiègne, oui.
Et par hasard, la responsable de la formation continue de l'UTC,
mm-hmm.
qui était d'ailleurs l'épouse du directeur de l'UTC, et dans la même proportion que moi à l'école politique de Philippines.
D'accord.
Et donc, elle m'a fait travailler un petit peu à l'époque pour aider un étudiant à finir un programme sur Hypercard. Hypercard.
Mm-hmm.
Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, donc, non, 2 années, je pense, je ne sais plus, j'ai trouvé que je me donnais beaucoup de mal.
Oui.
Parce qu'en fait, je donnais des formations à la fois sur Excel,
oui,
mais aussi en PAO.
D'accord.
Et grâce à ça, j'ai pu utiliser beaucoup Illustrator, Photoshop,
oui,
et former beaucoup de graphistes de Compiègne, justement d'agences de communication sur ces logiciels. J'avais oublié un petit peu ça, et donc d'utiliser à l'époque des très bons matériels et des très bons logiciels, oui, de PAO grâce à l'équipement qu'il y avait donc soit chez les clients, soit chez A2 Informatique.
D'accord.
Donc ça m'a permis finalement de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire créer des graphismes sur un écran, pas forcément des textes.
Oui.
Et voilà, ça c'est... Mais alors bon, l'histoire s'est terminée parce que je trouvais que j'étais mal payé.
Mmh.
Et grâce à mon ami donc et son mari, je suis partie à Rouen travailler pour un organisme qui, comme je te disais, était connecté beaucoup à l'université, à l'INSA de Rouen, ouais, à la région, et absolument était en charge de Renater. Enfin,
d'accord. Oui.
Ça m'a permis aussi, alors à ce moment-là, d'être vraiment dans le monde de l'internet,
oui,
à partir de 91, 12, enfin là j'ai des dates m'échappent. Ouais,
c'était au tout début, parce que Renater c'était le réseau internet de universitaires français.
Oui, et donc mon patron c'était lui qui était le pôle Renater de toute la Haute-Normandie.
D'accord. Ah, c'est génial.
Oui, il y avait des têtes là.
Oui.
On m'a un petit peu énervé parce que en fait, il travaillait beaucoup sous Unix. Il, oui, y avait aussi des formations à donner aux profs Unix.
Oui.
Donc, il a fallu que je m'y mette pour pouvoir donner des cours sous Unix. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était moi qui étais obligée de les faire, alors que d'autres étaient beaucoup plus qualifiés. Alors que j'étais en charge de plein d'autres choses en plus.
Oui.
La plaquette, les relations avec les industries du coin pour leur montrer qu'il fallait utiliser les machines de calcul parallèle du centre. Bon.
Bah, soit tu étais la meilleure en formation ou la moins chère.
Et donc, juste le jour de mes 50 ans, ils m'ont licencié.
Ah oui. Ouais, mauvaise nouvelle.
Il y avait peut-être quelqu'un parmi nos amis qui avait besoin de la place.
Oui, c'est ça en fait.
Mais je ne regrette rien. J'ai été vraiment plongée dans ce monde avec des facilités incroyables. Et je restais au bureau jusqu'à 9h du soir pour aller voir ce qu'il y avait sur Internet. C'est pas un problème. Mais j'avais des tâches qui me dépassaient quand même.
Oui, je comprends. Ouais. Et alors, tu as basculé vers la peinture et tous les arts graphiques, là, tels que l'on peut le voir.
J'ai basculé vers des stages de formation.
Bon. Ah ouais.
Et offert par la région. Et ensuite, j'ai fait un stage et j'ai été engagée dans une agence de communication à Saint-Quentin où on m'a fait travailler sur Lingo.
D'accord.
C'est-à-dire, c'était quoi Lingo déjà? J'ai eu un trou là. C'est
dans mes souvenirs, c'est un langage qui de description qui permettait de faire des animations, des choses comme ça, je crois.
Voilà, c'était quoi le logiciel
Lingo, c'était utilisé dans les outils de macromédia, je crois, à l'époque.
Voilà.
Enfin, ça s'appelait macromédia.
Ouais. Voilà, macromédia, très bien. Ouais. Et alors, l'histoire, c'est que je devais faire, en fait, en macromédia, la pub pour l'agence de com.
D'accord.
Donc, retrouver tous les documents, toutes les productions, faire des vidéos de tous les graphistes, donc faire un super CD-ROM.
Waouh.
Qui permettait de rapidement de tout savoir sur cette agence. Parce qu'à l'époque, cette agence n'utilisait absolument pas Internet.
D'accord.
Mais par contre, le CD-ROM, c'était moderne.
Oui, oui, c'est vrai. Oui.
Et alors, les prix des
graveurs.
Les graveurs, les prix des CD-ROM vierges étaient assez inabordables.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais bon, je me suis lancée, donc j'ai fait de la vidéo.
Ah, bien.
Pour préparer, donc, pour présenter les. Et on avait Adobe Premiere, donc je connaissais Adobe Premiere. Et puis voilà, et petit à petit, la situation s'est dégradée parce que chaque soir, je ne faisais pas de sauvegarde.
Oh.
Et la sauvegarde se faisait sur bande magnétique.
D'accord.
Ça durait des heures.
Oui. Et un soir, on ne s'est plus fait.
Et alors, à un moment donné, il avait besoin absolument d'une présentation micromédia, mais extrêmement interactive, mais très percutante. Il m'avait reproché de ne pas être capable de la faire très vite. Et donc, il a engagé quelqu'un d'autre pour la faire.
Oui.
Et entre-temps, il a scratché tout mon travail.
Aïe.
Mais je n'avais pas de sauvegarde comme il fallait, donc je suis aussi un peu responsable.
Oui, mais bon.
Enfin, j'ai gardé de traces quand même.
il doit rester un CD-ROM ou quelque chose, quand même, quelque part.
Quelque part, oui.
Ouais.
Mais c'était une expérience pas facile parce que on était tous serrés les uns contre les autres dans une petite pièce.
Ah bon?
Et on faisait des briefings, des débriefings sur ce qu'il fallait mettre comme affiche publicitaire pour tel et tel client.
Oui.
Moi, j'essayais faire un recensement de toutes mes heures passées.
Oui.
Alors, j'avais un très beau tableau Excel où je disais à telle heure j'ai fait ça. On avait une superbe imprimante laser couleur. Enfin, bon, des choses que j'avais envie de connaître, comment ça fonctionne, et beaucoup de Mac, évidemment, puisque tous ces gens-là, à l'époque, ne connaissaient que ça pour faire la vidéo.
Ah, ça devait être génial.
Bah oui, mais ça s'est terminé, quoi.
Oui.
Alors après, je me suis lancée dans un autre stage pour faire moi, mon propre business.
Oui.
Et là, j'avais donc inventé un projet très bien où je faisais à la fois consultant, concepteur web. Et mon idée, c'était surtout, en fait, de mettre à disposition des développeurs des modules tout prêts, des scripts, des photos, en mettant en relation avec
des agences.
Et de regrouper tout ça pour que les développeurs puissent rapidement faire leur site.
C'est bien.
Ah, j'étais très branché là, c'était
bien.
Alors après le stage, je sais pas, il a duré peut-être 2 mois, mais on apprenait la compta, les bilans, les budgets prévisionnels sur 5 ans.
Oui.
Bon, ça m'a appris la gestion, quoi.
Oui.
Et aller voir les concurrents aussi.
D'accord.
Mon projet était valide, quoi. Et finalement, ils ont trouvé que mon projet était trop en avance. Et donc, on s'est limité à je ne ferai que de la formation Internet.
Mais c'est ce que j'allais te dire, justement, parce que cette idée qui existe maintenant, mettre à disposition des scripts ou autres, ou un peu, peut-être éventuellement un concept de web agency, c'est quelque chose qui n'existait pas, ouais.
Pas du tout. Bon, enfin. J'ai tenté donc une création, puis je me suis arrêtée. Parce que je te dis, j'avais pas l'envergure et la santé pour fouiller. Puis peut-être la ville où j'étais, il n'y avait pas vraiment de quoi faire. Bon, enfin bref.
D'accord.
Bah, tu vois, tu as un beau CV là. Hein.
Ah ouais, c'est magnifique. Moi, je suis ravi, oui. Vraiment.
Donc la peinture, tout ça, c'est chaque fois que j'étais dans une ville, je m'inscrivais au cours du soir des écoles municipales de beaux-arts.
D'accord.
Donc j'ai appris le pastel, j'ai appris l'aquarelle, la peinture à l'huile, enfin, peut-être tout comme ça. Là, maintenant, je me débrouille sans cours, c'est bien.
Oui. Et tu connais la gestion, en plus.
Oh, non. J'aurais bien voulu qu'il ait le statut d'auto-entrepreneur à l'époque.
Oui, c'est ça, ouais.
Oh là là, des classeurs entiers avec quel modèle de entreprise vous voulez faire. Oh là là.
Ce que je t'en propose, c'est qu'on renouvelle cette expérience, parce que ça me fait très plaisir de discuter avec toi. Mais là, il va falloir que je t'abandonne pour me préparer pour le podcast qui a lieu dans 10 minutes maintenant.
Oh là là, oui, écoute, tu dis un grand bonjour à tous les Américains.
Ah ben, je n'y manquerai pas, ça, je t'inquiète pas que je vais leur dire.
Je serais ravi de parler en anglais avec eux.
Oui, ben je leur dirai. Est-ce qu'il t'arrive de venir à Paris?
Écoute, assez peu. Là, j'ai la chance d'avoir un petit-fils de 2 ans.
Oui.
Qui habite à Montreuil et je vais aller le voir le week-end du 29. C'est pour ça que je vais à Paris, c'est pour le voir.
D'accord. Ben, si un jour tu vas le voir et que tu as envie de rester un jour de plus pour voir Madeleine et qu'on déjeune ensemble, moi je serais ravi de vous inviter à déjeuner.
Bon, écoute, éventuellement, si ça peut se faire le week-end du 28, 29, je suis à Paris dans le train. Qui arrive à Montparnasse à l'heure de 11h, 11h30 du matin.
D'accord.
Donc, éventuellement, on peut se calmer là et faire un vidéo avec Madeleine avant que je ne aille à Montreuil.
D'accord. Bah, ce que je vais faire, c'est que 28-29, quand est-ce que c'est?
C'est le week-end d'après le premier tour.
C'est le week-end après, oui, c'est le week-end après le premier tour. Donc oui, je vois très bien. Bah ça, oui, bah ça doit pouvoir se faire. Parce que c'est ça, c'est le samedi 28.
Voilà.
Oui, c'est ça. Parce que là, je réalise par rapport à mon travail, parce que c'est un mardi 1er mai. Et donc, ça veut dire que j'ai droit à un jour de congé avant. Et donc, c'est bon. Oui, mais est-ce que tu veux que je vienne te récupérer?
Ben, écoute, avec plaisir, si tu... Sinon, il faudrait être sûr que Madeleine soit là aussi.
Mais je vais lui téléphoner. Je vais lui proposer. Ce que je vais faire, est-ce que tu pourras m'envoyer ton numéro de train par,
oui, tout à fait.
Par email ou autre. Et comme ça, bah, je viens faire le chauffeur de ces dames.
D'accord, mais tu ne nous emmènes pas trop loin parce qu'il faut quand même que j'aille à Montreuil.
Oui, ne t'inquiète pas. Je pourrais même peut-être poser jusqu'à Montreuil.
Parfait, parfait.
Oui. Alors faisons ça, c'est sympa.
Ok, Antoine, moi je te laisse.
Merci beaucoup de m'avoir appelé.
Oui.
Passe une excellente soirée et rendez-vous le 28 et par mail avant alors.
Ça marche.
Merci, au revoir Nicole.
Au revoir Antoine.